Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Pour m'accompagner ce soir dans le studio, Philippe Christel et Pascal Essérique de la revue Élément. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir, Patrick.
De la revue Élément, excellent numéro en ce moment, mon cher.
Ça ne vous le fait pas dire.
Ouais. Voilà, un petit coup
de promotion.
De communication.
Bienvenue.
Hein. Ce soir,
moi, je suis pas de la revue Élément, parce que vous avez dit Philippe Christel et Pascal Essérique de la revue
vrai,
Élément, hein, mais moi, j'y suis pas.
Je suis pas de la revue Élément,
hein. Je sais que vous êtes un lecteur.
Assidu.
Assidu.
Je comprends pas tout, mais j'essaye.
Et très critique de temps en temps.
Ah oui, c'est quand je comprends.
Voilà. Ce soir, nous allons pas parler de la revue Élément, nous allons aborder un sujet d'actualité, c'est les nouveaux terroristes, après la fusillade meurtrière de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, est-on vers une évolution du terrorisme ou à la naissance d'une guerre asymétrique? Ce terrorisme n'est-il pas une conséquence des différentes guerres qu'a mené l'Occident depuis le 11 septembre? Ou n'est-on pas vers ce fameux clash des civilisations? Alors, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir François Bernard-Huyghe. Bonsoir.
Bonsoir.
Les auditeurs de la Vieille Europe vous connaissent bien. Nous vous avions déjà reçu pour votre livre Quatrième Guerre mondiale et plus récemment pour Think Tank, quand les idées changent vraiment le monde. Vous avez beaucoup publié sur le terrorisme. Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire. C'est aux presses universitaires de France avec Alain Bauer et dans la collection Gallimard, Découverte, terrorisme, violence et propagande. Alors François Bernard-Huyghe, je rappelais votre livre Quatrième Guerre mondiale, où vous expliquiez, c'était en 2004, la nouvelle théorie des faucons américains voulant lutter contre le terrorisme. Vous étiez sceptique dans votre conclusion sur sa réussite, et puis je dirais que les faits vous ont donné raison.
10 ans plus tard, oui, là, on ne peut pas dire que ça soit un immense succès.
Ouais. Mais a-t-il été un accélérateur? Peut-on tracer une sorte de ligne directe allant du 11 septembre vers les interventions afghanes et irakiennes, les révolutions arabes, jusqu'à la création de l'État islamique? Est-ce que la stratégie américaine a-t-il été une sorte de déclencheur?
Alors ça, je crois qu'on peut dire que ça a été un déclencheur, mais il faudrait peut-être remonter plus haut d'ailleurs, il faudrait peut-être remonter à la première guerre du Golfe. Je vous rappelle que à l'époque où on sortait à peine d'une alliance entre les islamistes et les États-Unis, ce qui a amené Ben Laden à se tourner vers le djihadisme, c'est le fait que les godillots des soldats américains se soient posés sur la terre sacrée de l'Arabie saoudite. Donc il y a eu toute une après on pourrait retrouver toutes les causes géopolitique, voilà, déstabilisation des dictatures, certes antipathiques, mais laïques et efficaces de la région. Et par ailleurs, le 11 septembre a été l'occasion pour, appelons les faucons ou les néoconservateurs, on précisera peut-être ces termes tout à l'heure, de raccrocher des projets qu'ils avaient depuis longtemps, des wagons à la locomotive 11 septembre et à l'immense émotion qui a secoué le monde. À l'époque, on ne disait pas « je suis Charlie, mais nous sommes Américains ».
Parce que à l'époque, enfin dans les théories des néoconservateurs, ils reprochaient au président Bush, père, de ne pas avoir été jusqu'au bout.
Voilà. Alors, il ne faut pas évidemment tomber dans la théorie selon laquelle une poignée d'intellectuels aurait entièrement fait la politique des États-Unis. Il y a aussi des intérêts, voilà. Mais il y avait un discours néoconservateur. Enfin, je vais faire une petite définition du néoconservateur.
Oui, allez-y.
C'est la volonté de propager une démocratie bottée. Hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire la volonté d'instaurer la démocratie, le marché et un modèle du type de l'American Way of Life. Ah non, je ne dois pas dire d'anglicisme aussi, du mode de vie américain, mais de le faire si besoin et chaque fois qu'il y a besoin par l'usage de la force, qui, pensait-il, leur avait si bien réussi face à l'URSS, avant face à Hitler, etc. Donc les néoconservateurs avait depuis toujours reproché à Bush père de ne pas avoir terminé le travail, finish the job, en allant jusqu'à Bagdad. Et ils avaient un espoir, je ne sais pas s'il faut dire utopique, messianique, que en renversant ces dictatures laïques, scandaleuses, etc., on déclenchera ce que certains d'entre eux avaient appelé un tsunami démocratique. Ils n'avaient pas vu arriver le djihadisme. Qui étaient plutôt considérés comme des familles des États-Unis.
C'était des amis au départ.
Enfin, bon, n'exagérons pas, il y avait quelques attentats d'Al-Qaïda. Mais enfin, voilà. Ils n'avaient pas vu venir, évidemment, le 11 septembre. Peu de gens l'avaient vu venir. Mais ils ont très bien joué le judo en accrochant leur projet géopolitique de démocratisation et conquête du monde arabo-musulman au prétexte du 11 septembre.
Alors, est-ce qu'on peut, alors oui, effectivement, il y a eu cette guerre en Irak, et est-ce qu'on peut relier ça ensuite avec l'effet domino de toutes ces révoltes arabes? Est-ce qu'il y a eu
Alors, il me semble, alors évidemment, les jeunes Tunisiens n'ont pas renversé Ben Ali parce que les Américains avaient été intervenus en Afghanistan, bien entendu. Mais enfin, ça a été un moteur à deux temps où la déstabilisation de ces anciens pouvoirs laïcs ou ayant établi des compromis avec les forces religieuses, s'est prolongée par ce qui a été la divine surprise pour les Américains en général et néoconservateurs en particulier, qui a été le printemps arabe. C'est formidable. Enfin, ces jeunes gens sont des t-shirts, ils parlent anglais, ils sont sur Facebook, et on pensait qu'ils voulaient un régime obamesque. Après, les choses ont tourné autrement.
Ce terrorisme, on a l'impression depuis quelques mois que cet État islamique, il est arrivé d'un seul coup.
Oui.
Il vient d'où?
Alors, il vient. Alors, il est arrivé sur des pattes de colombe, hein, ou comme une vieille taupe qui a bien creusé son trou, pour prendre des images souvent utilisées. Il y a une extraordinaire surprise de voir apparaître l'État islamique, qui était alors d'abord né d'une tendance irakienne, d'un personnage, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Zarqawi, oui. Qui était le dur des durs, hein, qui était un ancien voyou, un dur des durs, et qui avait mené une politique non seulement d'attentat contre les Américains, mais une politique anti-chiite hyper dure. Bon, passons quelques épisodes qui n'ont plus d'intérêt qu'anecdotique. On est passé par des tensions au sein d'Al-Qaïda, entre la tendance irakienne, la tendance yéménite. Tout ça n'a plus d'intérêt que rétrospectif. Et tout d'un coup, dans cet Irak en pleine anarchie, malgré les succès que croyaient avoir remportés les Américains avec le surge, hein, la poussée lente et efficace avec beaucoup de force, et en Syrie, tout d'un coup, parmi ces 36 groupes comme Al-Nosra, etc., parce qu'on cite toujours les mêmes, il y en a d'États, en voilà un qui réussit soudainement par sa férocité, qui est en rupture avec Al-Qaïda, canal historique pour extrémisme, il faut le faire quand même, et qui, d'autre part, a, outre une efficacité stratégique indéniable, vraiment personne les a vus arriver, a également une efficacité idéologique, un coup de génie idéologique d'Al-Baghdadi, qui le met en rupture avec Al-Qaïda, canal historique, on va dire, qui est « nous allons construire le califat ici et maintenant ». Hein, c'est un peu Staline contre Trotsky, quoi. Il est dans cette idée qu'on va créer une terre obéissant à la charia, une terre pure, une terre de tous les vrais croyants, et qu'on va faire On va pas frapper l'ennemi lointain ou faire des projets pour le prochain siècle comme Al-Qaïda. On va établir ici et maintenant une charia, gérer un État, construire des hôpitaux et pas seulement couper des têtes.
L'État islamique, c'est le terrorisme local. Al-Qaïda, ce serait le terrorisme global. Alors, c'est ça l'opposition.
Oui, en gros. Et d'ailleurs, la tendance Ben Laden par rapport à ses mentors en Afghanistan était une tendance qui avait comme objectif prioritaire de frapper l'ennemi lointain. Donc ce n'est pour caricaturer. La tradition, la théorie de Ben Laden et suiveur, c'est n'essayons pas de nous faire de faire l'islamisme dans un seul pays, nous serons écrasés. Il faut déclencher une guerre planétaire en frappant les États-Unis, exemple le 11 septembre. La théorie d'Al-Baghdadi, évidemment je simplifie à la louche, c'est créons maintenant l'État islamique et gérons-le comme un État. C'est le début du califat, car après tout, qu'est-ce qui caractérise un djihadiste? C'est l'idée que le monde a mal tourné en 1295. 1295, c'est quoi? C'est la chute de Bagdad pris par les Mongols, donc la fin du bon califat pour eux. Donc il s'agit de remonter la machine à voyager à travers le temps et de rétablir le califat d'avant 1295.
Alors, on a pu voir qu'en fait, ils étaient aussi basés sur l'une des grandes erreurs, je pense, que des États-Unis qui n'avaient pas voulu collaborer avec l'ancienne armée de Saddam Hussein. Donc, on voit beaucoup d'anciens officiers qui se retrouvent avec ces islamistes. On parle de terrorisme, mais en fait, là, on est plus dans une guerre civile, parce que...
Il faut, évidemment, tous nos problèmes commencent avec des mots. Essayons de définir le terrorisme. Pour moi, le terrorisme est une méthode de lutte politique. Cette méthode, presque obligatoirement menée par des groupes clandestins, consiste à faire des attentats, des actes de violence sur des cibles symboliques pour avoir un effet idéologique. C'est un peu ma définition du terrorisme que je veux restreindre. Ce qui veut dire qu'il me semble qu'il y a une différence entre le terrorisme type poser des bombes, etc., sur le territoire de l'ennemi pour combattre l'état de l'ennemi, et alors appelez ça la guérilla, la guerre de partisans, la guerre insurrectionnelle, on se disputera pas sur les termes, qui consiste à se mettre des uniformes et avancer, à prendre des villes, à y établir une administration, établir une ligne de front, etc. Ce sont deux choses différentes, mais qui ne sont pas inconciliables. Vous avez des tas de groupes, genre Boko Haram, qui peuvent à la fois conquérir du territoire, affronter l'armée presque dans des batailles rangées, et en dehors de ça, envoyer des terroristes, y compris des petites filles, avec des ceintures d'explosifs. Ce sont des méthodes. Le terrorisme n'est pas une idéologie. Le terrorisme, c'est pas un pays ou le nom d'un peuple. Donc on peut pas faire la guerre au terrorisme. Mais en revanche, c'est une méthode qui s'inscrit dans un processus historique, et d'ailleurs les gens qui utilisent le terrorisme disent toujours que c'est un moment provisoire. Un jour, il y a toujours un jour. Un jour, tous les prolétaires nous rejoindront, ou tous les bons Irlandais, ou tous les bons Corses, peu importe, ou tous les bons musulmans, et un jour le peuple nous mènera au pouvoir par les urnes ou en marchant vers le palais présidentiel.
Alors, l'État islamique, tel qu'on l'a vu, est considéré comme des barbares qui sortent du Moyen-Âge, comme si... Et j'ai l'impression que... On vous montre les exécutions qu'on a vues, effectivement, dans ces vidéos, qui sont symboliques,
qui datent. Au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Ouais, et des massacres aussi de masse, comme si ça datait d'aujourd'hui. Mais j'ai le souvenir que le FLN, sous la guerre d'Algérie, utilisait déjà les mêmes méthodes, ou même pendant la guerre civile en Algérie. Vous écrivez « Terroriser l'adversaire pour le paralyser est une stratégie militaire immémoriale ». Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la communication, les images qui terrorisent un peu plus l'Occident vis-à-vis de ça?
Effectivement, on entend souvent dire « Le terrorisme, c'est quoi? C'est la tentative de terroriser ». Non. Pardonnez-moi, les Mongols savaient très bien terroriser leurs adversaires et ils n'étaient pas terroristes. Donc l'idée de terroriser au sens étymologique, c'est saisir l'autre d'une peur, d'un tremblement tel qu'il ne peut plus réagir. C'est pas une spécificité des terroristes. D'ailleurs, entre parenthèses, les images auxquelles vous faites allusion, j'en ai vu des vidéos non floutées, non censurées. C'est au-delà de ce que, au-delà de ce qu'on peut décrire. Hein, bon, voilà. Dans leur esprit, faut toujours penser comme l'adversaire. Dans leur esprit, il ne s'agit pas d'actes de terroriste comme un attentat, comme les frères Kouachi, par exemple, mais il s'agit de l'exécution de sentences contre des mécréants, contre... Et d'ailleurs, chaque sentence est exécutée d'une manière particulière. Par exemple, les homosexuels, on les jette du haut d'un building pour qu'ils aillent s'écraser par terre. Les femmes adultères, on les lapide. Il y en a qu'on crucifie, à qui on coupe la tête, etc. L'exécution... du pilote jordanien brûlé vif, hein, apparemment dans un truc qui est, ils l'ont rôti dans une cage. Il faut quand même bien s'imaginer ça. Ça répondait probablement à un code des peines et punitions qui est très clair dans leur esprit.
Alors, on viendra tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé en France, mais alors. Lors d'un excellent reportage il y a quelques semaines sur Arte, on nous explique que cet État islamique, il a ses banques, il vend du pétrole, il passe le pétrole par la Turquie. En fait, il n'y a jamais eu le moindre problème. J'ai une question naïve, pourquoi on boycotte pas ce pétrole et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à je veux dire, ils ont des banques, ils font de la finance. Pourquoi il fait rien ?
Alors, effectivement, quand on dit État islamique, il y a le mot État. Donc, un État, c'est l'exercice d'une autorité sur une population réunie sur un territoire. Et l'État islamique, qui se veut un califat ou une ébauche de califat, fait les actes d'un État. Par exemple, ils sont en train de... ou ils vont battre monnaie. Hein, mon métier m'amène à lire la presse djihadiste. Donc, dans leur revue, qui s'appelle, je crois, Dar al-Islam, quelque chose comme ça, en PDF, qu'on peut télécharger très facilement en anglais, en français, ils expliquent quelles pièces de monnaie ils vont utiliser, quel est leur sens symbolique, pourquoi il y a un palmier ou un sabre ou je sais pas quoi. Et par ailleurs, cet État, il a besoin de finances, donc il trafique des armes, il vend du pétrole. Alors, il le fait en principe clandestinement. Par la Turquie, par des trafiquants, etc. Ils vivent d'un tas de trafic. Oui, effectivement. Alors peut-être que si certains États n'étaient pas complaisants.
Non, parce que le pétrole, ça se vend pas comme ça.
Oui, alors là, c'est pas un gars qui ouvre son manteau, tu veux un bidon, voilà. Oui, effectivement, il y a des très gros trafics qui passent apparemment par la Turquie. Me demandez pas les détails, hein, mais il y a apparemment un marché du pétrole piraté, enfin clandestin. Ça paraît hallucinant, mais il y a également un marché des armes, un marché de la drogue, et il y a aussi un marché des otages d'ailleurs.
Alors on va revenir sur le drame de Charlie Hebdo, mais aussi du Danemark. Au moment des tueries de Toulouse, on parlait de loups solitaires. Ensuite, on s'est aperçu que certains étaient liés à des organisations comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Maintenant, on doute que le passage à l'acte a été vraiment coordonné directement par une organisation. C'est quoi la vérité ? Est-il possible de faire aujourd'hui un profil type de ces nouveaux terroristes sur le territoire européen ?
Alors, je vais vous répondre à la fois sur le territoire européen, plus ou moins, oui. Oui. On ne peut pas faire un profil type des djihadistes, hein, on ne peut pas faire un profil type des gens qui vont aller en Irak ou en Syrie, parmi lesquels il y a des convertis, il y a des gens de tous milieux sociaux, professionnels, etc. En règle générale, on ne peut pas faire un profil type psychosociologique des terroristes. Hein, beaucoup ont essayé et tous ont échoué, ou alors on trouve des banalités du genre il y a eu un drame dans leur vie, un revers de fortune, mais enfin bon, excusez-moi, les gens autour de cette table, il y en a probablement qui ont eu des drames dans leur vie, qui sont passés par le chômage, qui ont eu des difficultés financières, on pose pas des bombes pour autant. En revanche, si on prend un profil genre Merah, Nemrouche, frère Kouachi, Koulibaly, je sais plus le nom du gars, Al-Husseini, je sais plus, au Danemark et quelques autres, les caractères communs, c'est passage par la caisse prison, hein, pas forcément radicalisé en prison, mais passage par la caisse prison, ce sont des nationaux, ils ont le passeport du pays, ils ont Ils avaient visiblement des testostérones et de l'adrénaline à revendre, puisqu'ils avaient déjà une pratique de la violence. Ils ont été en contact avec des prédicateurs radicaux, appelons-les comme ça. Et c'est ce que j'ai appelé le djihad des copains, c'est-à-dire qu'ils passent à l'acte terroriste avec un groupe de copains d'enfance ou de gars du même quartier. Rappelez-vous les djihadistes de Roubaix dans les années 90, avant le 11 septembre. Enfin, voilà. Donc souvent, il y a un itinéraire commun de gens qui ont grandi dans le même quartier, ou sont des fratries. Il y a souvent des frères dedans, même quartier, mêmes activités. Pour les Kouachi, les Koulibaly, je me souviens plus trop comment ils se sont rencontrés, en prison ou quelque chose comme ça. Donc, il y a ce profil. Alors, j'insiste sur ce profil de ceux qui passent vraiment à l'action. J'ai bien dit ceux qui passent vraiment à l'action. Bon, parce que vous prenez pas une Kalachnikov pour aller abattre 12 personnes sans avoir fait 2-3 choses avant. On peut pas vraiment dire, par exemple, qu'ils soient radicalisés devant Internet, comme on nous le raconte.
Ouais. Alors, que pensez-vous?
Parce qu'elle est sérique.
Que pensez-vous du, vous les avez cités, Mehran, Nemouche, les frères Kouachi, Koulibaly. Que pensez-vous du fait que, finalement, ils sont très vite repérés? Finalement, on a très vite des renseignements sur eux. Ouais. Et, alors, est-ce que ça veut dire que, ils ont été suivis à un moment donné, et puis que la surveillance s'est arrêtée, et que voilà.
Je peux vous donc, répondre ça veut dire, oui. Ouais.
Oui. Donc, est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est, vous voyez?
Oui, c'est un très gros problème. Alors, effectivement, le lendemain, quand on regarde les Mehran, les Mouches, etc.
C'est assez incroyable.
D'abord, on découvre que ce ne sont pas des loups solitaires parce qu'ils avaient des gens pour les aider, des camarades, des frères, etc. Ils ont généralement un gros dossier.
Ils avaient tous un gros dossier. Casier judiciaire.
Voilà. Le problème, c'est que, d'abord, le problème, il est quantitatif. Quand vous avez des milliers de dossiers, c'est comme si vous n'aviez. Voilà, je ne veux pas critiquer nos services de renseignement ou notre police ou la DCRI, etc. Je crois qu'il y a là-dedans des tas de gens qui font bien leur boulot, qui repèrent les gens. Le problème, c'est si vous avez le dossier sur un rayonnage ou dans un coin de disqueur, quoi, qu'est-ce que vous faites du dossier? Il y a des problèmes de droit. Vous pouvez avoir parfaitement un profil de djihadiste, avoir fréquenté des prêcheurs, avoir tenu des propos délirants, etc. Si vous rentrez pas dans un commencement d'exécution, on peut pas vous arrêter sur des intentions. C'est peut-être une bonne chose, d'ailleurs, on pourra en discuter.
Oui.
Et par ailleurs, si on veut tenir la surveillance sur ces gens-là, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte beaucoup d'argent, et ça coûte du temps de cerveau humain. Troisième problème, oui c'est trois, j'en ai évoqué deux. Troisième problème, c'est très très bien d'avoir l'information, les données quelque part, mais si vous ne transformez pas les données en connaissances, je veux dire, si vous n'avez pas quelque part un analyste qui dit, parmi tous ces dossiers, Kouachi, Koulibaly, ils ont le profil à passer à l'action et à être capable de faire quelque chose d'organisé, eh bien, votre connaissance ne sert à rien. La même chose était valable pour le 11 septembre, je veux dire, c'est une règle générale. Après le 11 septembre, il y a eu d'énormes débats. Il y a un très 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 bon rapport, très bien écrit, de la Chambre des représentants américains, vous voyez que je suis pas toujours anti-américain, qui dit sur le thème de la prior knowledge. Étant donné les éléments d'information qu'on avait, comment a-t-on fait pour ne pas deviner? Comment a-t-on fait pour ne pas deviner? J'en reviens au même point, parce que le dossier était perdu parmi beaucoup d'autres. Parce que le dossier qui, avant le 11 septembre, avait repéré qu'il y avait des types qui s'entraînaient au pilotage, qu'il y avait des profils d'islamistes, etc., était perdu parmi beaucoup d'autres. Je vous raconte une petite anecdote personnelle. Quelque temps avant le 11 septembre, je faisais un reportage pour un honorable hebdomadaire auprès des think tanks américains, et j'ai rencontré un spécialiste du terrorisme, du djihadisme, au CSAS, il s'appelait, j'ai un trou de mémoire, enfin peu, 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 peu,
oui,
en,
peu,
C'est pas Derrick Duquerque, peu importe son nom, il a un nom belge, qui m'avait exposé ce qu'il faisait. Il faisait des exercices, voilà. Et lui, il avait bien compris que le danger viendrait de ces groupes à l'époque en Afghanistan, etc. Et il m'avait exposé des scénarios très très ingénieux. Il m'avait pas parlé d'envoyer des avions sur les tours, mais des tas de trucs très ingénieux du genre envoyer un petit avion télécommandé plein de gaz sarin ou je sais pas quoi sur le Capitole. Et il a fait cette entretien, je vous dis, quelques semaines, mois avant le 11 septembre. Il dit, mais ben, vous êtes fort quand même, je veux dire, vous avez de l'imagination, etc. Et comment ça se termine, vous avez dit, il me dit, premièrement, nous perdons souvent dans les simulations, et d'autre part, avoir un scénario ne vous sert à rien s'il est perdu parmi les centaines d'autres scénarios. Donc on a un problème de gestion de l'information, et ça peut se gérer, se résoudre qu'avec un talent humain qui est assez rare.
Alors vous êtes sur Radio Courtoisie et on reçoit François Bernard Huyghe pour parler de ces nouveaux terrorismes. L'inquiétude, c'est que ça soit avant le 11 septembre, c'est-à-dire le terrorisme traditionnel, on avait affaire quand même à des gens qui étaient formés, pareil pour les gens du 11 septembre. La bande de Roubaix, c'était quand même des gars qui c'était des délinquants, mais ils étaient partis en Tchétchénie, ils avaient vécu une expérience en Bosnie. Oui. Pardon, ils avaient vécu une expérience. Là, on a affaire quand même à des jeunes. Au départ, on avait dit qu'ils étaient partis
au Yémen,
un peu de tout. En fait, grosso modo, le trois quarts, ils sont même pas partis. Donc, l'étendue des jeunes qui sont en banlieue sont énormes.
Alors, il y a un potentiel énorme, bien entendu. Entre la réalité, elle est entre le prétendu loup solitaire qui pèterait les plombs tout d'un coup et qui se mettrait à tuer les gens spontanément tout seul de manière imprévisible, ça je crois pas que ça existe vraiment sauf cas rarissime, et le vétéran qui a été faire ses classes quelque part. La réalité est entre les deux. Ces gens-là, soit ils ont, oui, dans ce qu'on cite, sauf des mouches qui avaient, je crois, fait d'assez sales trucs, soit ils n'ont pas été faire leur petite guerre d'Espagne, soit ils y ont été brièvement, n'ont pas rencontré des gens particulièrement importants, n'ont pas été adoubés, n'ont pas reçu de mission ultra secrète, ou c'était il y a quelques années. Hein. Alors ça, c'est le gros problème. C'est que si on était face à une organisation, j'allais dire à la James Bond, quoi, avec des chefs qui donnent des instructions, qui suivent ce que font leurs subordonnés, qui leur disent tel jour tu feras ça, à la limite on pourrait se dire qu'avec tous les gadgets de la NSA ou d'autres, on pourrait intercepter ça, comprendre la structure, la hiérarchie et prévenir. Mais plus c'est spontané. Semi-auto-organisé, quoi. Plus ce sont des groupes, des petits groupes qui se connaissent personnellement. Bon, prenons l'exemple des Kouachi et Koulibaly. C'est très très bien d'avoir c'est pas très bien, c'est une figure de style. De mettre des pièges dans les puces des téléphones, ou d'avoir des satellites, ou d'analyser des milliards de données. Si vous êtes en présence d'un groupe de gens qui se retrouvent au bistrot, ou qui se fréquentent tous les jours ou qui utilisent des techniques très simples. Par exemple, j'ai lu quelque part que Koulibaly avait 13 téléphones. Comme beaucoup de truands ont des tas de téléphones parce qu'ils ne sont pas stupides, ils savent que la police les écoute. Là, il est très très difficile de savoir quand ces gens vont passer à l'action, d'autant plus que s'ils se rencontrent, c'est peut-être pour faire un braquage ou un trafic.
On les a présentés souvent comme des paumés en échec scolaire, ayant une connaissance effectivement très limitée de l'islam. Ils ont pourtant un point commun, c'est la désignation de l'ennemi. Ils ont une vraie haine vis-à-vis des gens qui ciblent.
Oui, alors ça c'est le facteur. Bon, leur formation, entendons-nous par formation. Par rapport à la moyenne des populations, ils n'étaient pas particulièrement, ils les très particulièrement négligé par l'État.
Oui, les conversations ont permis de voir que...
Bon, Koulibaly, c'est pas un intellectuel, hein, ça c'est clair. Non. Mais bon, ils n'étaient pas dans la misère. Quelqu'un a dit l'autre jour que Koulibaly gagnait 2 200 euros par mois. Bon, moi je connais des gens qui gagnent moins. Bon, alors voilà, leur connaissance de l'islam, en revanche, là, oui, bien sûr, elle était extrêmement sommaire. Je crois qu'il y a un interrogatoire de Koulibaly où apparemment il ne sait pas la différence entre un sunnite ou un chiite. Donc là, c'est quand même assez grave. Mais enfin, ceci dit, vous n'avez pas besoin d'être un hyper intellectuel pour passer à l'acte. Donc, c'était pas des paumés. En ce sens-là, mais pour en revenir à votre question, alors eux, ils savent très bien qui est l'ennemi. Oui, il me semble qu'il y a deux sentiments majeurs, deux valeurs majeures qui les guident, qui sont le ressentiment et l'obligation. Le ressentiment, c'est, alors ça, c'est dans tous les discours de tous les djihadistes, nous allons vous faire payer pour le sang que vous avez versé. Vous les croisés,
l'Occident,
juifs,
l'Occident, voilà.
Vous, moi, le gars qui passe dans la rue, etc. Donc, ils considèrent qu'il y a une culpabilité globale contre des crimes horribles commis contre l'islam. Il met tout dans le même sac, quoi. Je veux dire, la Tchétchénie, l'Irak, le fait qu'on n'ait pas assez bombardé Bachar el-Assad, enfin bon, tout ça rentre dans une sorte de sac, hein, à revendication. Il y a une expression extraordinaire du philosophe Sloterdijk qui dit « les banques de la colère ». Voilà, notre débit, hein, nous les Occidentaux, les Juifs, les Croisés, etc., ça croît tous les jours dans les banques de la colère. Ils veulent nous faire verser autant de sang. Donc il y a un côté, une idée de la vengeance, voire du talion. Je rappelle que Ben Laden se réclamait du principe du talion, qui n'est pas uniquement un principe judaïque. L'autre élément, c'est qu'ils croient que c'est leur devoir de faire ça. Ils croient que c'est leur devoir parce que ils pratiquent le djihad défensif et qui a été théorisé par des autorités religieuses qui disent nous les musulmans nous sommes attaqués par donc c'est notre devoir et en termes de droit naturel parce que même les animaux ont le droit de se défendre et parce que c'est écrit dans le Coran, dans l'interprétation du Coran, de mener une guerre qui est une guerre défensive et qui se terminera le jour où le califat universel se sera établi, compte pris à Washington DC.
Alors, ce qui était impressionnant, c'est que quand on voyait ces images, on était persuadé qu'ils avaient eu un entraînement. Enfin, c'était des vrais professionnels. En fin de compte, pas tant que ça.
Alors, pas tant que ça. Bon, je vais pas poser à l'expert en ces domaines. Non,
mais tout le monde a vu. C'est vrai.
Voilà, j'ai images. J'ai moi-même jamais braqué une bombe ou tué 12 personnes. Donc, je sais pas.
Qui sont d'une froideur. À la mort du policier montre une volonté.
Alors, le policier, les commentaires qu'ils font en battant le policier. Bon, ça, c'est la froideur et la détermination, ça suppose une psychologie très particulière quand même. Sur le plan purement technique, une fois encore sans prétendre poser à l'expert, enfin j'ai consulté des gens qui l'étaient plus que moi, si on voit la façon dont ils ont patouillé en se trompant de numéro, en n'ayant pas prévu qu'il y aurait un code, il y a même une image où on a l'impression qu'un des frères Kouachi ne sait pas mettre le chargeur de sa Kalachnikov. C'est d'un autre côté, c'était pas des James Bond, même s'ils avaient certainement pratiqué la violence, probablement braqué des banques, menacé des gens avec des armes. Bon, d'un autre côté, si vous êtes, vous faites partie des gens qui peuvent se procurer des Kalachnikovs, alors on peut présumer que vous avez déjà fait des actes de violence.
On a vu tout à l'heure l'échec qu'avait été la doctrine néoconservateur par les néoconservateurs dans les actes mais aussi dans le langage, dont le fameux guerre au terrorisme. Quand j'écoute le gouvernement Emmanuel Valls parlant d'islamo-fascisme, on n'est pas loin du même langage.
Oui, alors ça c'est tout à fait frappant. Moi j'ai pas eu le temps de faire l'étude à fond, s'il y a un étudiant qui m'écoute, il y a un beau mémoire à faire. Il est frappant de voir comme des expressions qu'on avait entendu dans la bouche de George Bush en 2001, qui à l'époque avait fait ricaner à gauche, pas seulement à gauche, hein, se retrouve aujourd'hui dans la bouche. Bon, par exemple, nous ne faisons pas la guerre à une religion, nous faisons la guerre au terrorisme. Phrase qui a été prononcée à peu près dans ces termes-là par Hollande, c'était une phrase de Bush. Hein. Bon, islamo-fasciste, non, ça c'est très intéressant. D'abord, c'est visiblement absurde. C'est un concept absurde, islamo-fascisme. Qu'est-ce qui caractérise le fascisme? C'est le nationalisme et non pas l'universalisme, un caractère laïque, voire franchement anti-religieux dans certaines formes du fascisme, le culte de la volonté du peuple incarné par le chef, enfin, toutes sortes de choses à rebours de la charia, de l'universalité de l'Oumma, etc. Bon, mais en dehors du fait que c'est un concept absurde, il est hérité, effectivement, des milieux néoconservateurs. Je ne sais pas quel a été le premier à l'avoir utilisé, mais je me souviens de l'époque, après 2001, où des gens comme Glucksmann, très proche des milieux néoconservateurs, on peut dire ça sans l'injurier, utilisaient la théorie des quatre fascismes. Alors, c'est l'idée des néoconservateurs. En 14-18, le Kaiser représentait le fascisme nationaliste, les États-Unis en ont sauvé le monde, en 39-45 c'était Hitler, les États-Unis ont sauvé le monde, pendant la guerre froide on a sauvé du fascisme rouge communiste, et maintenant c'est le fascisme vert. Donc là, il y a des expressions qu'on retrouve, guerre au terrorisme, islamo-fascisme, il y en a d'autres qui m'étaient passées par l'esprit que j'ai oublié, qui sont frappantes dans le vocabulaire qui sont effectivement surprenantes à retrouver sous la bouche de gens qui, me semble-t-il, avaient critiqué l'intervention américaine en Irak, par exemple.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que ça a été les réponses qui ont été données. On a parlé tout de suite de l'école, hein, de l'éducation.
Oui, là, alors effectivement,
le discours va pas vraiment bien avec les actes par rapport à l'époque de George Bush.
On pouvait commenter pendant longtemps l'esprit du 11 janvier, comme on a dit, et les termes qui ont tourné en boucle, hein, et c'était les mantras, valeurs de la République, ne pas montrer la peur, ne pas céder, droit, pas d'amalgame, bien entendu, etc. Qui ont tourné. Alors, et quelles sont les réponses? Ben, elles sont les réponses, surtout si on veut pas dire que l'adversaire c'est le djihadisme. Je veux bien qu'on dise pas que c'est l'islamisme, parce que l'islamisme c'est la volonté d'instaurer la charia quelque part, mais on peut imaginer qu'on le fasse par les urnes ou par des forces politiques. Le djihadisme, c'est le fait de mener une guerre sainte, et donc le terme de djihadisme me paraît convenir parfaitement. Même si vous trouvez toujours un intellectuel qui vous explique que le vrai sens du djihad, c'est le djihad intérieur, l'effort sur soi, etc. Donc, évidemment, le problème, c'est de pas prononcer le mot islam pour pas se faire accuser d'islamophobie, d'amalgame, etc. Donc, ça a amené à des phrases...
Et des contorsions lexicales.
Des contorsions lexicales comiques, et à des solutions. On a été puisé dans son stock sur les rayonnages idéologique, il faut quoi? Plus de valeurs républicaines, l'école, etc. Bon, j'ai des doutes, quoi.
Peut-on dire qu'il y a eu un changement depuis un moment de la vision française et de sa diplomatie? On en parlait tout à l'heure hors antenne, depuis Sarkozy, il y a une sorte d'alignement à une politique américaine. Pierre Conessat, que vous devez connaître, parce qu'il travaille à l'IRIS, explique clairement que ce qui se passe en Irak et aussi en Syrie, c'est une guerre de religion, et vouloir intervenir dans ce conflit, c'est une aberration intellectuelle. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la politique, et c'est un débat qu'on a eu depuis l'arrivée de Sarkozy, j'ai l'impression que la parenthèse gaulliste est fini complètement sur le monde arabe, en tout cas sur cette...
Je le crains. Et ça serait très très long d'en chercher les raisons, je suis pas sûr de les connaître toutes d'ailleurs. Effectivement, là, il y a un atlantotropisme important dans la politique étrangère, le plus et le plus fort des deux ou le pire des deux n'est pas forcément Sarkozy. Hein. L'alignement de Hollande sur la politique américaine, essayant même de dépasser le maître Obama au moment de la Syrie. Je vous rappelle qu'en 2013, on était dans l'idée de punir Bachar. Et ce qui aurait eu d'ailleurs, imaginons qu'on ait bombardé Damas en 2013 ou détruit une partie de l'armée syrienne, je suis pas absolument sûr que ça serait les gentils démocrates qu'on voit sur le perron de l'Élysée qui auraient triomphé et que ça n'aurait pas servi les intérêts de l'État islamique. Voilà. Donc là, il y a un tropisme très fort. Bon, alors pour être objectif, de temps en temps, il y a un moment où, je trouve par exemple que Hollande négociant les accords de Minsk, peut-être parce qu'il suivait Angela Merkel, tout le monde sera peut-être pas d'accord, parce que c'est pas la chose la plus criminelle, la plus stupide qu'on ait faite, quoi.
Mais quand on voit par exemple le rôle, c'est vrai que ça a fait rire beaucoup de monde à l'époque, mais enfin bon, à la fin les événements n'ont plus fait rire. De voir le rôle d'un BHL et des néoconservateurs français, est-ce qu'ils ont un vrai rôle, une vraie influence, ou ça a été un épiphénomène au moment de la Libye?
Alors, oui, c'est vrai qu'à un moment, on a eu l'impression que BHL était devenu le ministre des Affaires étrangères français, avec les brillants résultats qu'on sait, puisque
bien sûr,
en ce moment, l'État islamique est en train de s'installer en Libye et de préparer des tas de choses désagréables. Alors, aux États-Unis, les néoconservateurs ont eu un rôle. Ça, on connaît les think tanks, les gens qui ont été aux affaires.
Ils avaient écrit des livres, il y avait des théories.
C'est pas une thèse originale de dire qu'ils ont joué un grand rôle aux États-Unis. Je pense qu'ils n'ont pas disparu avec Obama, qu'ils n'ont pas été totalement malheureux sous Obama, et qu'ils ne seront pas très malheureux si Hillary Clinton est élue, ce qui serait probablement une chose terrifiante en politique étrangère.
Oui, parce qu'il faut dire aux auditeurs que les
Il ne faut pas caser nos catégories de droite et de gauche.
Ouais, les néoconservateurs étaient au départ plutôt du côté de chez Clinton, Bill Clinton.
Beaucoup de néoconservateurs sont venus des milieux démocrates. Quand certains d'entre eux, dans leur itinéraire personnel, n'ont pas été à l'extrême gauche, trotskiste, etc. Mais c'est pas parce que... Je suis pas en train de dire que les néoconservateurs sont trotskistes, hein, on se comprend, mais ça serait idiot. Ils sont très puissants aux États-Unis. On ne peut pas dire le contraire parce que on voit leur place dans les journaux ou leur CV. En France, une petite revue, il n'y a jamais eu de centre d'influence néoconservateur. Bernard-Henri Lévy ou des gens comme lui sont proches idéologiquement des néoconservateurs, mais bon, on ne peut pas. Je pense, mais je me trompe peut-être, qu'ils n'ont pas, qu'il y a eu un facteur tenant à la personnalité de Sarkozy, qui pense que avoir les forces de l'esprit de son côté, c'est faire venir Bernard-Henri Lévy sur le perron de l'Élysée ou aller voir ses pièces de théâtre. Mais il y en a un autre qui pense la même chose.
Oui, je pense que sur ce sujet-là, c'est une analyse qu'on peut rapprocher de ce qui a été décrit par vos soins tout à l'heure en réponse à la question de comment est-ce qu'on n'a pas capté les apprentis djihadistes. C'est que on a tout simplement un appareil d'État qui se délite et qui disparaît. C'est-à-dire que la parenthèse gaulienne, la diplomatie gaulienne, que ce soit au Quai d'Orsay ou dans les grands corps des grands serviteurs de l'État, il y avait une sorte d'aristocratie du service public qui a aujourd'hui totalement disparu, avec un personnel politique lui-même qui, pour les raisons qu'on connaît, ne cherche plus à faire l'histoire mais à accompagner le flot des événements. Donc il y a aussi une disparition de la volonté politique, il y a une disparition, un étiolement fort de l'appareil d'État. Quand on voit que 90% de l'appareil diplomatique français se mobilise sur pour réussir la conférence du climat, ça laisse songeur. C'est pour les 10% qui restent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière qu'on n'a plus les moyens de surveiller les apprentis terroristes, ce qui est aussi lié au fait que le nombre de candidats d'apprentis terroristes a significativement, lui, évolué, je pense qu'il n'y a plus de contre-pouvoir d'État, et le même Juppé, quand il était dans la dans la logique, c'est celle de Villepin, où elle est à l'époque de la guerre en Irak, et le Juppé qui se fait damer le pion par BHL sous Sarkozy. Aujourd'hui, ni le ministre, ni son appareil technocratique du Quai d'Orsay ne sont plus les mêmes. Ils ne peuvent plus lutter. Il n'y a plus de thèse, il n'y a plus de théorie. Quand on voit que nos meilleurs diplomates, on les envoie, que ce soit Pierre Vimont ou Alain Leroy, on les envoie soit à l'ONU, soit à la Commission européenne. Il y a une vraie attrition de la compétence et de la solidité de l'appareil diplomatique d'État français.
Enfin, je pense que nous avons de très bons diplomates, et moi j'en ai entendu qui disent des choses fort intelligentes, mais hors micro.
Hors micro,
ça va toi, mais bon, il me semble qu'effectivement on nage dans, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'idéologie dominante de l'appareil d'État, par exemple, qui a nettement changé par rapport à l'époque gaulliste. Et bon, c'est sûr que des personnalités comme Villepin et Védrine paraissent à des années-lumière maintenant.
Vous aviez écrit avec Alain Bauer, les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est toujours aussi pertinent? Est-ce que il y a toujours cette logique on retrouve
C'est dans la définition. La réponse est dans la question. C'est dans la définition parce que, enfin, toujours si on prend cette idée que le terrorisme frappe des cibles idéologiques pour accomplir des buts politiques et faire des avancées, je dirais, idéologiques, le terrorisme, il est là pour signifier quelque chose. Une formule célèbre qui dit « les terroristes veulent pas tuer beaucoup de gens, ils veulent que beaucoup de gens sachent qu'ils tuent des gens ». Voilà. Donc la communication fait partie de la stratégie terroriste. D'une certaine façon, le terrorisme, c'est un média. Et par ailleurs, le terroriste est quelqu'un qui tue pour des raisons qu'il pense légitimes. Il se conçoit généralement comme l'avant-garde. L'avant-garde du prolétariat, l'avant-garde des bons Irlandais, l'avant-garde des bons musulmans, et il pense que ce qu'il fait est bien et juste, donc il doit toujours avoir une justification idéologique de ce qu'il va faire et du programme qu'il va accomplir, même si parfois, alors évidemment la justification idéologique, elle peut varier dans sa sophistication. Les gens des Brigades Rouges, avant de faire le moindre attentat, avaient des réunions qui duraient des heures et ils relisaient les manuscrits de Jeunesse de Marx pour savoir si ce qu'ils faisaient était truc, et ils pondaient des un gloubi-glouba de textes très longs et très compliqués. Koulibaly est plus primaire, on va dire.
Oui, mais malgré tout, vous avez évoqué tout à l'heure Dar al-Islam.
Oui, alors
la revue francophone.
Vous pouvez le
voilà, la revue francophone de l'État islamique.
Je ne vais pas vous faire avoir d'ennui en disant ça à l'antenne, mais vous pouvez très facilement. C'est pas illégal, je pense.
Non, mais par contre, le lien qui était sur votre site a été supprimé.
A supprimé.
C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. Enfin bon, je pense que
vous pouvez très facilement vous procurer de la des revues en PDF, soit d'Al-Qaïda Inspire, soit d'Ar al-Islam, où
et
tout ça est expliqué.
La qualité de cette revue, si vous aviez à la comparer à la production intellectuelle des Brigades Rouges.
Ah, alors c'est pas du tout la même chose. Alors, d'abord. Les Brigades Rouges, ça a l'air idiot, mais les textes des Brigades Rouges étaient tapés à la machine sur un mauvais papier pelure en cornice, quoi. Hein, bon, voilà. Donc le souci de la forme n'était pas leur souci principal. Si vous regardez une revue, ces revues que je viens de citer, il y a de belles photos. Je dis pas que ça ressemble à Paris Match, mais
ça
ressemble à certaines revues d'entreprise qui sont plus mal faites, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on s'était moqué de la première numéro de la revue Dar al-Islam en français. Il y en a en français, en anglais, en allemand, etc. Et dans le numéro 2, ils ont dit on s'est moqué de nous, mais nous avons maintenant corrigé les fautes de frappe. Il fait une plus belle maquette. Donc il y a un souci de la forme. Alors sur le fond, bien entendu. Tu sais, si je me suis tapé des textes des Brigades Rouges, on est vraiment dans la phraséologie marxiste. Ils avaient des concepts frappés au cœur de l'État, etc., etc. Qui n'auraient pas déparé une discussion dans un cours de sociologie des universités de l'époque. Effectivement, que la littérature djihadiste, Je suis pas en train de dire que tous les grands inspirateurs idéologues soient nuls, mais elle est dans un, c'est une suite de citations de hadiths et d'autorités religieuses pour dire il est légitime de faire ceci ou de faire cela. Hein, c'est voilà, c'est binaire hein, comme système, c'est simple. Mais il y a, si vous remontez évidemment aux idéologues du djihadisme, il y en a qui sont plus raffinés. Y compris Ben Laden lui-même, dont les textes publiés par Roy dans Al-Qaïda dans le texte ne sont pas inintéressants. Quand je dis ne sont pas inintéressants, c'est un intérêt purement intellectuel, c'est pas une approbation, on se comprend bien.
Justement, en parlant de cette communication, on a eu un nombre de d'émissions pour nous expliquer l'efficacité qu'ils avaient à faire des vidéos, à faire de la mise en scène. Mais en préparant cette émission, en lisant votre texte Terrorisme et violence aux éditions Découvertes de Gallimard, qui date de 2011, vous dites déjà, ils ont des moyens, oui, vidéo, etc., qui existaient.
Alors, qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui a changé? Moi, les premières vidéos d'exécution horrible djihadiste que j'ai vues, c'était en 2001, et c'était les Tchétchènes qui coupaient des têtes face caméra. Bon, à l'époque, ça devait pas être des DVD, ça devait être des VHS, ou des gens du GIA qui se filmaient en train de tuer des soldats. Donc, l'idée de montrer des exécutions, elle n'est pas neuve, et elle a un sens qui est facile à comprendre. On montre la colère de Dieu qui châtie les impies pour faire peur aux impies, et inciter les bons musulmans à faire le djihad. Al-Qaïda a eu très tôt des services de production vidéo. Pendant la guerre d'Irak, il y avait des vidéos d'exécution qui suraient. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qui est nouveau ? D'abord, vous allez me dire que je suis obsédé par la forme, mais je crois que la forme, c'est un fond qui se révèle. Il y a la sophistication et le raffinement quasi hollywoodien des vidéos de l'État islamique. C'est pas par hasard. Je veux dire, ils tiennent à ce qu'on sache qu'ils ont beaucoup de caméras. Ils ont une culture ou une esthétique cinématographique, mais enfin on voit comment les plans sont composés, ils retouchent des trucs avec les couleurs. Donc ils ont un grand souci de l'efficacité, enfin je vais oser un mot horrible, esthétique, de l'image horrible, enfin voilà. Donc ça c'est important pour eux, et on retrouve des tas de codes. On voit qu'ils ont vu des JT occidentaux, ils savent que pour créer une certaine impression il faut agiter la caméra comme si elle était sur l'épaule de quelqu'un qui court dans la foule, etc. Sur le fond, alors il y a des genres djihadistes qui sont constants. Il y en a trois, quoi. Soit c'est le prêche d'un émir d'une autorité face caméra qui dit ce qui est bien et ce qui est juste. Soit ce sont des séquences d'entraînement avec des musiques tonitruantes, des types en pick-up qui montrent leur virilité en exhibant leur Kalachnikov et leur Ray-Ban. Soit ce sont ces séquences horribles d'exécution, tête coupée. On va pas rentrer dans les détails abominables. Bon, je trouve que j'ai professionnellement eu à voir des cassettes non coupées, non floutées. À la limite, plus que les têtes coupées, le son qui jaillit, le plus horrible, c'est la façon dont ils traitent les condamnés avant de les tuer. Ouais. Ils leur disent « Tu as bien compris pourquoi tu vas mourir ». Voilà, ils leur font une sorte de pédagogie et accessoirement, ils leur font creuser leur tombe. Donc, c'est vraiment au-delà de l'abominable, du répugnant, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pas l'horreur qui est nouvelle, encore que brûler un type dans une cage, ça, je l'avais jamais vu encore. Mais ce qui est peut-être plus nouveau, c'est qu'à côté de cette littérature entre guillemets officielle de provocation d'escalade dans l'horreur, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que on voit encore les djihadistes sont pas stupides, quoi. Ils ont compris l'intérêt de Twitter, par exemple. Soit vous avez des messages de djihadistes qui sont sur place et alors qui sont parfois surprenants de naïveté. Alors les garçons se font des sortes de selfies avec des pour montrer comment ils sont des baroudeurs, ils font des gestes un peu comme les rappeurs avec leurs mains, etc. Ils racontent que la vie avec les copains est très chouette là-bas, quoi. Et les filles racontent des choses très surprenantes du genre bah ici on est avec dans le français ou l'anglais que vous imaginez, avec les fautes d'orthographe, etc. Ici nous sommes bien traités, on nous considère pas comme des putes, on peut se trouver des bons maris islamiques, et puis on aide les enfants, on construit des hôpitaux, on fait des choses bien. Donc c'est ça c'est la logique des réseaux sociaux, c'est raconte ta vie, hein, voilà. Donc ce sont des gens qui sont sur place, qui nous expliquent combien le pays de Cham, hein, c'est le terme qu'ils emploient pour Irak-Syrie, est un endroit, je dirais pas une sorte de grand camp de vacances, mais un endroit où il se passe, où la vie est plutôt sympathique et où on est bien traité.
Et pour des gens qui veulent revenir au XIIe siècle, je trouve qu'ils utilisent beaucoup qu'ils utilisent beaucoup l'image,
oui.
Qu'ils utilisent beaucoup la vidéo, qu'ils utilisent beaucoup. En fait, ils sont quand même très modernes.
Alors, ils sont très modernes. Alors, d'abord parce que premièrement. Ils sont pas stupides, hein, ils ont quand même compris l'intérêt des réseaux sociaux et du web 2. Deuxièmement, parce qu'ils baignent dans une culture de l'image. Avant d'aller faire le djihad, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils regardaient la télé quand même, hein, et ils étaient sur Internet. Et la troisième raison, me semble-t-il, c'est que ils ont des théologiens qui réfléchissent là-dessus. Bon, il y a tout un débat au sein de l'islam, est-ce que l'image est licite, est-ce qu'on doit représenter le prophète ou les saints, ou est-ce qu'on doit représenter de simples êtres humains, il y a un hadith qui dit que c'est un acte démiurgique qui offense Dieu, etc. Et la plupart, enfin dans le salafisme, ont répondu que l'image distractive, les films hollywoodiens, c'est mal, mais l'image pédagogique, celle qui incite à la vraie foi, elle est bonne. Et pour eux, une tête coupée, face caméra, c'est une image pédagogique qui vous conduit dans la voie de Dieu.
Philippe Christel, on va me faire l'avocat du diable, mais tout à l'heure vous disiez avec raison qu'il fallait donc penser à la place de l'adversaire, enfin à la place de l'autre. Donc, on peut imaginer que tout ou partie de ces djihadistes qui produisent ces vidéos, eux, ils ont vu, par exemple, des vidéos sur les résultats des bombardements de Gaza.
C'est très très clair.
Et donc, ça veut dire que dans leur système de valeurs à eux, rien ne dit que la vidéo où l'on montre 19 types en file indienne qu'on découpe d'un seul coup, soit pas forcément plus. Elle est peut-être moins choquante que les résultats du bombardement d'une école avec des gamins qui sont mutilés. Ouais.
Nous
ne voyons pas les images de Gaza. Et nous ne les verrons jamais, pour un certain nombre de raisons. Et je voudrais rapporter ça d'un... Je vais revenir 50 ans en arrière, parce que, en fait, l'image de la mort et du cadavre a toujours été préservée dans les sociétés occidentales. Et il y a un moment où ça a dérapé, et ce moment, il est profondément idéologique, c'est l'utilisation... par les Américains, des images tournées à la libération des camps de concentration. Et c'est la première fois où on montre des images de cadavres.
Et, tout à fait d'accord, mais on va y revenir.
Et où on montre de manière industrielle, avec notamment ces scènes totalement choquantes où on voit un bidas, alors plus ou moins grimé en allemand, c'en est un, c'en est pas un, monter sur une espèce de tracteur, et puis avec le tractopelle, balancer les cadavres de typhiques dans des tranchées ou dans des fosses communes. Bon. Et on comprend bien que la logique idéologique qui consiste à augmenter la condamnation du régime vaincu en montrant l'horreur et les cadavres, d'ailleurs principalement des cadavres issus de liés à la famine, à la guerre, au blocus, etc. Même les Allemands eux-mêmes, qui pourtant, on a parlé de ce pauvre pilote jordanien qui a été brûlé dans sa cage, les Allemands eux-mêmes ont assez peu montré les images des enfants passés au phosphore dans les villes allemandes. Il y en avait plus qu'un, hein, et donc cette fois-ci le bombardement était américain. Donc je veux dire par là que dans le jeu de l'image, nous nous avons, quand nous voyons ces vidéos islamistes, nous avons un haut-le-cœur parce que notre rapport à l'image est effectivement bien différent. Et je pense que quand on se met à la place de l'adversaire aussi, évidemment pas pour l'excuser, je pense que les auditeurs auront compris, mais je pense que le rapport à l'image... Je précise le détail. Bon, allez, je tombe le masque. Voilà. François-Bert Derwig, là-dessus, sur ces images.
En partie d'accord avec vous. Le fait de montrer des images de cadavres, c'est effectivement, ça a été un tabou. Il avait déjà été franchi pendant la guerre de sécession et il a été franchi pendant la guerre de 14-18 où on a inventé l'atrocity propaganda qui consistait à montrer des images parfois vraies, parfois truquées, peu importe, les horreurs que faisaient les adversaires. En revanche, il y a eu un tabou occidental que j'appelle la règle de ne pas montrer les cadavres qu'on fait, les cadavres qu'on subit, qui s'est à peu près instauré au moment de la guerre du Vietnam. Parce qu'il y a eu tout un débat aux États-Unis sur pour savoir s'il n'y avait pas une sorte de coup de caméra dans le dos et si ces images que des reporters très courageux qu'on filmait avec dans des conditions très dures, à l'époque c'était du 16 mm dans la jungle, enfin vous voyez le travail. Bon, c'était des images, bon, il se trouve que dans mon enfance j'ai vécu aux États-Unis, on voyait à la télé des jeunes Américains qui mouraient, quoi, voilà.
Et c'est la dernière guerre qui a été
la dernière guerre. Alors les gens étaient les reporters étaient très libres, beaucoup sont morts de l'exercice de cette liberté. Et effectivement, alors après coup, il y a eu des tas d'images qui ont fait débat, comme l'image d'un sud-vietnamien en train de tirer une balle, ou de la petite fille nue sous le napalm, etc. Ouais. Et beaucoup d'Américains se sont persuadés que leur problème venait non pas de leur politique, mais de leur communication. C'est une tentation courante, et que donc, c'est parce qu'on avait laissé voir ces cadavres que, après, il y a eu toute une stratégie, la stratégie de Margaret Thatcher, on voit pas d'images pendant les Malouines, il y a eu la stratégie de la première guerre du Golfe.
Il n'y avait rien.
Donc, il y a un tabou extraordinaire. Alors, l'apogée de tout ça, ça a été le 11 septembre. Il y a eu 3000 morts. Vous en avez vu un, vous ?
Non.
Voilà. Donc, et c'est l'événement le plus filmé de l'histoire de l'humanité. Donc, par une autocensure, c'est pas la police qui a fait ça, c'est par une autocensure, on n'a pas vu d'image du 11 septembre, sauf quelques gens qui sautaient. Donc, il y a un tabou occidental. Dès qu'on présente des images, la sensibilité des spectateurs, nous ne voulons pas donner à l'ennemi la satisfaction de voir nos cadavres, qui a été un tabou terrible. Évidemment, ce tabou culturel n'existe pas ensemble, et vous avez raison quand vous dites, non, leur système de valeurs à eux, les cadavres qui nous font répondre aux cadavres que nous leur faisons, qui voient effectivement sur leur chaîne, il n'y a pas le même tabou à l'égard de la mort, du cadavre.
Ce qui a été un peu le succès d'Al Jazeera, qui a été la première chaîne d'info. Alors, qui a vraiment amené des images que vous ne voyez nulle part.
La première guerre du Golfe, c'était des images. Bon, Baudrillard a écrit des pages fantastiques là-dessus. Bon, c'était un jeu vidéo, une guerre sans images. On voyait des petits points lumineux dans le ciel, etc.
Dans le ciel vert de Bagdad.
Effectivement, la mauvaise surprise des Occidentaux, des Américains, ça a été qu'Al Jazeera montrait ses guerres du point de vue des Arabes. Des gens au sol, des gens qui reçoivent les bombes, pas des gens qui lancent les bombes.
Bon, écoutez, on va terminer là. On pourrait en parler encore des heures. Je rappelle juste quelques livres que vous avez sortis. Il y a Le terrorisme, violence et propagande aux découvertes Gallimard. Et en relisant, alors vous passez vraiment le terrorisme en revue en une centaine de pages, et on retrouve exactement toutes les nouveautés qu'on nous racontait sur le terrorisme, ce qui permet de voir qu'en fait... pas grand chose à changer. Vous aviez sorti effectivement Quatrième Guerre mondiale, Faire mourir et faire croire, qui était sur les néo-conservateurs, qui est aux éditions du Rocher et qui est à relire parce que c'est formidable. Et on en parlait en hors antenne, peut-être que ces néo-conservateurs, vu le fiasco
on peut le dire, d'Obama depuis quelques années sur ces problèmes-là, risque de revenir. Et puis, votre livre, Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire aux presses universitaires de France avec Alain Bauer. Avec Alain Bauer. Voilà, on va faire juste une
peut-être
légère
pause. Peut-être
que
tu peux donner les coordonnées du site dont tu parlais?
Les sites, ah bah il y a le site de.
On peut faire de la publicité à mon site.
Oui, allez-y, oui, bah justement.
Oui, c'est de ça dont je parle.
Oui, c'est
huig.fr.
huig.fr. Voilà, on se retrouve dans une poignée de secondes avec l'actualité européenne et Philippe Christel. Retour pour cette deuxième partie, puis qui va être un tout petit peu plus courte que d'habitude, mon cher Philippe. Donc on va tout de suite aller vers l'actualité européenne.
Oui, je vais.
Et vous êtes bien sûr toujours sur Radio Courtoisie. J'oublie à chaque fois, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie.
Il n'y a
dans les chroniques
que
de la
sur
vieille
Radio
Europe,
Courtoisie qu'on
avec
écoute
Philippe
les chroniques
Christel.
De l'Europe. Écoutez, notre dernière émission datait du 3 février. Elle était donc avant la signature des accords de Minsk 2. Et à ce micro, nous vous avions indiqué, je crois, chers auditeurs, que nous sentions venir, je crois que j'avais utilisé la métaphore de l'élastique, et j'avais dit ça y est, l'élastique a été trop tiré, et désormais, soit il casse, soit il va falloir relâcher la pression. À l'évidence, pression a été relâchée. Les choses ne sont pas gagnées, bien évidemment, mais je voudrais... Je voudrais proposer aux auditeurs une petite vue de Sirius, comme j'aime bien faire, sur la réalité des victoires ou des défaites enregistrées par la Russie au terme de cette séquence. Parce que si on regarde Minsk 2, et il suffit de regarder le vaillant président Porochenko dit le roi du chocolat à la télévision pour comprendre que c'est pas lui qui a gagné. Petit 1. Deuxièmement, il suffit de voir s'exciter les eurocrates de Bruxelles, les eurocrates de l'OTAN et les Américains pour comprendre que c'est pas eux qui ont gagné. Je dis pas qu'ils ont perdu, mais c'est pas eux qui ont gagné. À l'évidence, le binôme franco-allemand est allé chercher avec la Russie, avec Minsk 2, une signature, un engagement difficile à appliquer. Je reviendrai sur l'assassinat récent de Boris Nemtsov, mais je pense qu'il participe des stratégies de déstabilisation de Minsk 2, mais nous y reviendrons. Enfin, à l'évidence, cette signature a été obtenue sans les Américains, sans les Bruxellois, et sans, j'oubliais, on oublie toujours les caniches, mais sans les Anglais, qui, par la voix de leur ministre de la Défense, Monsieur Hammond, ont été particulièrement grossiers et grotesques envers la Russie et la prétendue menace militaire russe, parce que ils sont tout simplement ulcérés d'avoir été mis de côté de cet accord. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la France et l'Allemagne sont-elles allées chercher cet accord qui est globalement favorable à la Russie, alors venant après plusieurs mois d'agression et d'attaque contre la Russie, tordant ainsi le bras au président Porochenko, dont il n'est pas dit par ailleurs qu'il ne puisse pas tomber du fait de sa propre minorité atlantiste activiste à Kiev. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que cette sorte de reprise en main, par une Europe, on va dire continentale et non pas occidentale, s'explique par le jeu, la place que la Russie vient de prendre ces derniers mois sur l'échiquier européen et même sur l'échiquier mondial. Et c'est assez paradoxal que ce soit à l'issue de cette année, puisqu'il y a quasiment un an que nous avons commémoré, pour ne pas dire parce que nous ne l'avons pas fêté, le Maïdan. Ça fait un an que la Russie est assiégée et maltraitée au sens du concert des nations et du droit des gens. Eh bien, à l'issue de cette année, force est de constater qu'elle a plutôt marqué des points. Quelques illustrations récentes. On a vu la situation grecque. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la dernière fois. Le gouvernement de Tsipras est allé chercher des potentielles assurances, du potentiel soutien auprès de la Russie. On connaît bien évidemment, de par l'orthodoxie, les liens qu'il y a entre ces deux pays. Il y a la Hongrie. La Hongrie, Viktor Orban a reçu à Budapest Vladimir Poutine le 17 février. Il a largement tenu la position avec des arguments qui sont pleins de bon sens. D'abord, c'est que lui, il dit que la politique énergétique de la Commission européenne est néfaste pour la souveraineté de son pays, puisque la Hongrie a un accès direct et privilégié au gaz russe et que, sous prétexte de privilégier et de sécuriser l'approvisionnement ukrainien, l'UE voudrait que la Hongrie s'affranchit de ce bénéfice. Deuxièmement, Orban a rappelé que sans coopération avec la Russie, l'Union européenne n'atteindra jamais les objectifs de compétitivité qui ont été votés dans les paquets économiques. Troisièmement, la Hongrie s'est dit prête à soutenir le projet du gazoduc Turkish Stream, qui est le succès d'année du South Stream, et qui est ce gazoduc qui vise à acheminer du gaz dans le sud de l'Europe en contournant l'Ukraine et la Bulgarie, que les Américains ont retourné, si j'ose dire, sur ce sujet-là. L'Allemagne, plus que la France, qui est quand même sensible à ce qui se passe dans, non pas dans les Balkans, mais même dans cette Europe centrale et orientale, a bien vu que cette position hongroise, d'abord elle est fondée, et deuxièmement, elle n'est pas sans amener un certain nombre de tensions. Je voudrais citer les déclarations d'un eurodéputé conservateur roumain, qui s'appelle Edouard Raoul Elvig, qui vient d'être désigné comme responsable des services secrets de la Roumanie, et qui a expliqué clairement sur son blog que le partenariat entre la Hongrie et la Russie menaçait les intérêts de l'Union européenne et de l'OTAN, avec la Hongrie comme cheval de Troie de la Russie en Europe. Toute une logorée qui est amusante, puisque est-ce le début d'un retournement, puisque nous-mêmes nous avons largement souvent utilisé cette expression pour caractériser un certain nombre de pays comme étant des chevaux de Troie de l'Amérique en Europe. Donc là, la Grèce, la Hongrie, Chypre. La Russie vient de signer avec Chypre un accord prévoyant de la mise à disposition de bases navales pour autant de relais russes en Méditerranée. J'aime autant vous dire que autour de la table européenne, ça fait jaser. D'abord, ça fait déjà 3 pays, et je n'ai pas fini. Et surtout, là, on est sur une coopération militaire qui, me semble-t-il, n'aurait rien à envier à la livraison contractuelle de 2 Mistral, mais c'est une autre histoire. Quatrièmement, l'Italie. Vous savez que l'Italie, je le rappelle souvent à ce micro, l'Italie a été le 3e investisseur européen en Russie, devant la France d'ailleurs. Donc il y a des liens industriels entre les entreprises de la péninsule et celles de la Grande Russie qui sont très forts. Et vous vous souvenez de l'insistance avec laquelle Matteo Renzi, le président du Conseil italien, s'est battu pour imposer Federica Mogherini, son ancienne ministre des Affaires étrangères, comme représentante de la politique européenne de l'Union européenne, de la politique étrangère de l'Union européenne. Le débat ayant été particulièrement rude, puisque justement il était reproché à Madame Mogherini une certaine indulgence pour la Russie. Eh bien, pas plus tard que hier, Monsieur Renzi est allé tendre la main aux Russes. Pourquoi ? Pour trouver un soutien sur la normalisation de la Libye. C'est-à-dire que on s'aperçoit que la Russie est évidemment incontournable en Méditerranée orientale et que chaque pays couvrant ses propres intérêts, et je ne rappelle pas les liens historiques qu'il y a entre l'Italie et la Libye, mais il y a là encore un coup de canif dans ce qui pourrait être une solidarité bruxello-atlantique de containment de la Russie. Et cette Russie-là, elle est de plus en plus sollicitée. On vient de parler de la Libye. On voit bien le rôle qu'elle joue dans la conclusion d'un accord avec l'Iran. On voit bien le rôle qu'elle joue pour normaliser les relations avec la Syrie et la Syrie de Bachar el-Assad. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si un certain nombre de Français, il y a ceux qui se sont déplacés, et nous saluons ici à ce micro le député Jacques Myard, que nous avons la joie et le plaisir de croiser dans ces couloirs de Radio Courtoisie, et qui a été tout à fait exemplaire dans cette opération en Syrie. Nous le félicitons. Il y a donc là, la Russie s'installe comme pivot géostratégique sur un certain nombre de sujets. Je vais citer deux autres exemples qui ont peut-être échappé à la vigilance de nos...
Pour vous couper, qu'est-ce que vous voulez dire? Que la France et l'Allemagne l'a pressenti, a fait de la réelle politique,
constate,
comme on dit?
Oui, je constate que malgré les sanctions, malgré les volontés d'affaiblir l'économie russe, qui en fait affaiblit autant les économies des pays d'Europe, des pays européens partenaires de la Russie, que la Russie elle-même. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est que cette politique des sanctions, elle est stupide, parce qu'en fait, elle cherche à casser un lien plus qu'à pénaliser tel ou tel des partenaires. Mais aujourd'hui, malgré ce recul diplomatique, malgré le fait qu'on cherche à extirper l'Ukraine de l'orbite naturelle russe, la Russie ne cesse de marquer des points. On pourrait citer la palanquée de partenariats asiatiques, le dernier en date avec le Vietnam, que la Russie est en train de signer. Je vais citer deux exemples qui sont flagrants. On vient de le 1er mars... Donc dimanche, il y a eu le résultat des élections en Estonie. Alors vous allez me dire, l'Estonie, 1,3 million d'habitants, c'est quand même pas énorme, certes, mais l'Estonie fait partie, comme la Lettonie, la Lituanie, de ces fameux pays baltes dont on nous rebat les oreilles au prétexte qu'ils seraient particulièrement inquiets de la menace de ces bruits de bottes des Russes et qu'ils s'imaginent être digérés demain, telle une vulgaire Crimée, par l'ours russe voisin. Ce qui est intéressant, c'est que sondage post-urne, seuls 5% des Estoniens redoutent qu'une guerre éclate avec Moscou. Pourtant, ils sont à côté. Plus intéressant, c'est que le Parti du Centre, qui est le principal mouvement d'opposition au Parti de droite, qui vient d'ailleurs d'être reconduit aux élections, donc c'est le parti de la majorité russophone, il a enregistré une hausse, il pèse 25% des voix en Estonie. La mairie de Tallinn est d'ailleurs tenue par un représentant de ce parti du centre, comme en Lettonie d'ailleurs, où le parti russophile et russophone fait 23% des voix, et là où la mairie de Riga est également tenue par un représentant de ce parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour des raisons pour le coup historiques, les pays baltes, les auditeurs le savent, ont été particulièrement traumatisés par la parenthèse stalinienne. Ce qui explique d'ailleurs un engouement important en 1940 et 41, lorsque ces pays ont été, vu de leur point de vue, libérés par l'offensive allemande. Ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par, pour le coup, un vrai remplacement de population, puisque pas loin de 20 à 25% de la population de ces pays a soit disparu, été exécuté, soit été déporté, et qu'on a remplacé ces gens-là par des colons russes, et surtout par des familles qui étaient les familles des militaires russes qui étaient prépositionnés dans ces pays-là à l'époque de l'URSS. À la chute du mur, une partie de ces Russes sont rentrés, mais tous ceux qui avaient fait souche et ceux qui n'avaient que ces endroits-là pour vivre sont restés. Et je vous signale, soit dit en passant, que la Lettonie et l'Estonie sont les deux seuls pays européens de l'Union européenne qui respectent toutes les chartes des droits de l'homme que vous voulez, qui ont organisé le fait que, pour prendre l'exemple de la Lettonie, 13% de la population est une population qui est apatride. C'est-à-dire une population qui n'a pas la nationalité russe, puisqu'elle s'est trouvée le jour de la dislocation de l'URSS, citoyenne de la République d'Estonie ou de Lettonie, et donc ce qui n'a pas cette nationalité russe, mais cette population-là s'est fait retirer la citoyenneté lettonne parce que ils ne parlent pas letton et qu'ils ne satisfont pas un certain nombre de critères. Donc, ce qui veut dire que quand en Lettonie vous avez un parti qui fait 23%, qui est le parti de la minorité russe, il faut rajouter 13%, non pas du corps électoral votant, mais de la population qui est apatride parce que russophone. Ça laisse quand même rêveur de deux choses. Premièrement, c'est que si la Russie voulait souffler sur les braises, elle aurait les moyens de le faire, elle ne le fait pas. Et deuxièmement, c'est que, à l'évidence, la population, qu'elle soit lettonne ou qu'elle soit estonienne, ne semble pas aussi effrayée ni aussi paniquée de risquer de repasser sous pavillon russe qu'on veut bien nous l'expliquer dans les salles de rédaction des journaux français atlantistes et qu'on veut bien nous l'expliquer dans les chancelleries anglaises et polonaises, toujours les mêmes. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, si je retrouve mon papier, mais ce qui ne saurait tarder, c'est le basculement tout à fait intéressant de la Moldavie. Alors vous allez me dire, après l'Estonie, la Moldavie, ça va se terminer avec le Birobidjan. Bon, je sais, c'est pas énorme, c'est pas gros, mais je rappelle que le 30 novembre 2014, on a annoncé triomphalement...
Non mais de toute façon,
si moi j'en parle pas, personne n'en parle. Donc je rappelle que la Moldavie, nous avions fait une excellente émission sur la Moldavie avec notre ami Carnou.
Oui, c'est vrai.
Et que la Moldavie, c'est l'ancienne Bessarabie. Donc ça, je dis ça, ça fait plaisir, un, à tous les auditeurs de plus de 75 ans qui s'en rappellent, et deux, ça rappelle à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'il y a quand même des choses qu'ils ignorent et donc il faut qu'ils se cultivent. Donc l'ancienne Bessarabie, qui a été largement disputée entre la Roumanie et l'URSS, au gré des conflits, et la Russie et l'URSS au gré des deux premières guerres mondiales. Et donc, on a fait taratata le 10 novembre, sont les victoires des partis pro-européens. Donc la Moldavie va pouvoir, dans la foulée de la Géorgie et de l'Ukraine, s'arracher du giron russe, s'arracher du giron de la CEI, choisir la démocratie, blablabla. Eh ben non, patatras, le 18 février, c'est-à-dire il y a 15 jours, le gouvernement que s'est choisi la Moldavie, eh bien c'est un gouvernement qui donne la part belle à un gouvernement alors composé des communistes moldaves. En fait, les communistes moldaves, ce sont les russophiles ou ceux qui ne veulent pas de la sécession avec la Moldavie. Et je pourrais vous provoquer en vous parlant de la Gagaouzie, mais je ne vais pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que, à l'évidence,
quelques minutes.
Ah oui, d'accord. Bon, faut que je fasse plus vite alors. Bon, à l'évidence, la Russie. Je ne gère pas si mal que ça son étranger proche et ne fait pas si peur que ça à ceux qui devraient être effrayés. Maintenant que les Américains, que les Atlantistes sont effrayés et que les forces du mal qui dirigent à Kiev et qui empêchent toute solution pacifique dans ce pays soient effrayés des progrès que fait la Russie, qui tient et qui démontre sa capacité de résilience même en termes de crise économique, tout ça, ce sont des sujets qui démontrent que la Russie est plus solide qu'il n'y paraît. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive l'assassinat de notre brave Nemtsov. Notre brave Nemtsov, paix à son âme, d'autant plus qu'il allait visiblement se diriger vers une soirée tout à fait délicate avec cette jeune mannequin ukrainien de 23 ans. Ce brave Nemtsov représente cette espèce d'élite moscovite, ce qu'on appelle les libéraux ou des partis de droite.
Faut-il rappeler, il a été.
Alors c'est un ancien ministre de l'époque Yeltsin. Il fait partie aujourd'hui de cette élite totalement cosmopolite. Des Khodorkovsky et des Abramovitch et compagnie qui ont accumulé deux types de choses. Ils accumulent d'une part des portraits flatteurs dans la presse européenne et d'autre part des échecs électoraux absolus en Russie. Ceci expliquant peut-être cela. Aujourd'hui, il est évident que la mort de Nemtsov à 300 mètres du Kremlin à l'avant-veille d'une manifestation soi-disant d'opposition à Vladimir Poutine, à l'évidence, le crime ne profite pas à Vladimir Poutine. Ça, c'est certain. À tel point d'ailleurs que Alors que ça a un petit peu démarré comme ça dans les réactions, dans les premières réactions, on a quand même pas été jusqu'à dire que Poutine serait responsable. C'est juste en fait, c'est le climat qu'il a installé. Voilà.
Ou alors ce serait ce du billard certain, à 10 bandes et j'avoue
ce qui
que...
est certain, c'est que aujourd'hui, Nemtsov est quelqu'un qui était totalement démonétisé, qui ne pesait rien électoralement, qui semblait d'ailleurs avoir choisi une voie personnelle, un peu comme le joueur d'échecs Kasparov, là, qui a été le plus ridicule de tous ses opposants, mais visiblement commençait à sortir un peu de cette posture d'opposition, en préférant faire des affaires entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, la figure de proue, c'est Alexei Navalny. Et donc, voilà, en tout cas, une bonne cible de quelqu'un qu'on pouvait éliminer tranquillement, peut-être en réglant quelques règlements bancaires en attente, mais voilà quelqu'un qu'on pouvait faire disparaître sans que la cause de l'opposition soit profondément dégradée, avec un superbe bénéfice d'image, et comme dans les bonnes vieilles séries policières, à qui profite le crime? Et je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser.
C'est la question. En tout cas, c'est oui. La question. Je vous coupe. C'est la question à laquelle répond Jacques Sapir, à qui profite le crime sur son blog Russie Europe. Je vous recommande effectivement son billet qui liste toutes les hypothèses et je vois que beaucoup en fait rejoignent ce que Philippe a pu dire.
Oui, bon. Deux éléments très rapidement le premier pour vous parler d'Italie, il faudra suivre, vous savez que on va arriver très vite d'abord aux élections régionales en Italie, mais c'est une année électorale en Italie avec une véritable mue de la Ligue du Nord qui sort de sa posture irrédentiste, si j'ose dire, qui sort de sa posture Rome la voleuse, le Nord devant le Sud, pour se poser comme le vrai parti nationalement d'opposition à Matteo Renzi. La Ligue du Nord vient de réaliser un super meeting sur la Piazza del Popolo. Pour la première fois, la Ligue du Nord a été soutenue par nos amis de Casa Pound. Et il y a là quelque chose de tout à fait intéressant sur le discours de Ligue du Nord, qui a totalement renvoyé au livre d'histoire la lutte entre fascistes et communistes, manière d'échapper à cette diabolisation, d'ailleurs peut-être plus intelligente que son allié du Front National ne sait le faire. Et en tout cas, il faudra suivre ça. Autre élément à suivre de près,
rapide,
ce sera évidemment les élections législatives britanniques du 7 mai, puisque la semaine dernière, c'était le congrès de UKIP, le United Kingdom Independence Party, qui après être arrivé en tête aux élections européennes, a envie de transformer l'essai. On lui donne 15% des suffrages. Le mode de scrutin britannique est très défavorable,
ouais,
puisque c'est uninominal à un tour, mais il faudra suivre cela de très près. Là encore, après les élections européennes, l'Europe va bouger, l'Europe bouge, et les partis nationaux et identitaires progressent, ce qui est une excellente nouvelle.
Voilà, on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission des Chroniques de la Vieille Europe, et réécoutez-nous jeudi soir à la même heure, à 21h30. Bonne soirée à tous, toujours sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath, life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us might live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. He changed his man within 3 weeks. You think Clay's pulling his rubber? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.